Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Bienvenue dans le podcast de Marceau Soir, merci d'être là. Ce soir, un invité que j'ai la chance d'avoir, je dis bien la chance, puisque c'est quelqu'un qui a un gros horaire d'habitude, et là, je sais qu'il est en vacances, donc, puis qu'il nous, il nous fait le plaisir d'être avec nous. Son nom, c'est Normand Bray, il est ingénieur et docteur en génie nucléaire, entrepreneur et philanthrope. Il nous présente ce soir son livre « Quand la science nous émerveille ». Merveille. Monsieur Bray, un gros merci d'être avec nous ce soir.
Ça me fait plaisir.
Est-ce que vous avez vu l'éclipse passer en tant que scientifique? J'imagine que pour vous, l'éclipse, c'est un beau phénomène à étudier.
Absolument. Même ici, à Puerto Vallarta, on a eu d'éclipses qui n'étaient pas totales, qui étaient 96%, mais quand même, 96%, c'est mieux que rien. Et puis, on a vu les effets. C'était pas aussi beau que la totalité. Ma fille qui est restée à Montréal, qui d'ailleurs s'est déplacée à Châteauguay pour l'occasion, elle a pu voir l'éclipse en totalité. Et puis, effectivement, c'est très émouvant, c'est très poétique. Une éclipse.
Ouais. Moi, je l'ai vu de Québec. On était autour de 98 ou 99 de ce que je comprends. On a vu la luminosité baisser. Puis effectivement, on en parlait un petit peu juste avant la pause, vous et moi. On a ressenti comme une petite fraîcheur. Tu sais, quand le soleil s'est mis à disparaître de plus en plus, on avait une petite fraîcheur. J'ose pas imaginer ce que ce serait que la fin de ce soleil-là. J'imagine qu'après quelques minutes, on serait congelé.
Absolument. Le soleil nous chauffe énormément. Hein. On parle de 1000 watts au mètre carré. 1000 watts, c'est un gros grille-pain qui fonctionne. Donc, ça chauffe quand même pas mal. Et puis, quand on coupe le grille-pain, on le débranche, là, on voit qu'il fait froid rapidement.
Oui. C'est une belle journée pour faire de l'éducation pour nos enfants.
Hein. Absolument. Les enfants sont des éternels curieux. Les enfants ont toujours plein de questions. Alors, effectivement, les éclipses, c'est fascinant. C'est un phénomène bien réel, bien visible. Ça ne revient pas souvent. En plus, je pense que la rareté fait qu'on s'y intéresse davantage.
Oui. Ce que je trouve exceptionnel, moi, c'est qu'on réussit à calculer avec exactitude le moment où nous aurons les éclipses. On dirait qu'il semble jamais y avoir d'erreurs mathématiques dans les calculs que nos scientifiques ont fait. Puis on sait avec exactitude à quelle heure que ça va arriver, les endroits où ça va être possible de voir l'éclipse. La science a évolué à un point tel qu'on dirait qu'on n'a plus de limites maintenant au niveau de la connaissance.
C'est vrai, mais il y a quand même des paradoxes. Autant tout le monde a confiance que lorsqu'on prédit, les scientifiques prédisent une éclipse, c'est comme tu dis, à quelle heure elle va arriver, à quel endroit exactement, tout le monde fait confiance à la science. Mais dans d'autres sujets, les gens doutent. On a eu beaucoup de doutes quant au vaccin, par exemple, lors de la pandémie.
Ouais.
Et pour toutes sortes de choses, finalement, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate, par exemple. T'sais. Alors, on doute de la science pour toutes sortes de choses, mais pour l'éclipse, il n'y a pas beaucoup de monde qui en a douté. C'est le paradoxe. Bref, on a confiance dans la science, puis parfois, mais c'est bien, le doute, c'est un beau moteur en science, hein? c'est correct de douter.
Ouais.
Mais lorsqu'on nous présente des preuves, il faut les accepter jusqu'à ce qu'on trouve mieux.
Ah non, mais je veux pas vous flatter dans le sens du poil, là, mais les scientifiques, les spécialistes, les mathématiciens de ce monde, moi, je m'informe beaucoup sur la NASA, puis l'histoire de la NASA, puis les premiers employés hyper importants de la NASA, puis de voir qu'ils ont réussi à calculer là, au millimètre près, des fois, les arrimages ou encore l'alunissage. Je trouve ça juste incroyable que l'être humain soit capable de calculer ça avec une précision comme ça. Puis je me dis, si on a réussi dans les 100 dernières années, si on a réussi à évoluer comme ça, qu'est-ce que ça va être dans 2 ans, dans 200 ans, dans 300 ans? Ça va être complètement fou, là.
Effectivement. Mais cette connaissance-là est un héritage récent dans l'histoire de l'humanité. Hein, pendant des milliers d'années, une éclipse, c'était mystérieux.
Ouais.
C'était un mauvais présage, ça faisait peur. Il y avait une phobie qui s'installait lorsqu'il y avait des phénomènes naturels qu'on ne comprenait pas. Alors, on en comprend de plus en plus, mais je pense que ce qui est aussi fantastique en science, qu'on découvre, c'est que plus on en découvre, plus on en connaît, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. On mesure surtout l'étendue de notre ignorance. Et puis ça, c'est ce qui me motive à dire aux enfants, soyez curieux, continuez à poser des questions. il n'y a jamais de questions idiotes. Les questions, c'est ce qui fait évoluer les réponses. Alors, et nos réponses, effectivement, comme tu dis, ont été stupéfiantes. On arrive à des. La science, ça, en fait, elle fonctionne. Elle fonctionne, comme vous dites, au millimètre près. Elle réussit à faire des prédictions fantastiques dans certains domaines. Et puis, là, on arrive maintenant avec une intelligence augmentée, un terme que je préfère au terme intelligence artificielle. Une intelligence augmentée, un peu comme un levier. Hein. On a inventé des machines, hein, des bulldozers, des grues, des choses qui décuplent et multiplient par des facteurs 1000 notre capacité physique, notre force physique. Ben, si on décuple par un facteur 1000 notre intelligence, qui sait où ça va nous mener? Et puis, c'est un peu ça, l'intelligence augmentée. Qui commence à poindre le nez actuellement.
Vous êtes optimiste, pardon, avec l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas l'impression que ça peut nous amener peut-être beaucoup trop loin?
Ben, je pense que c'est toujours la même chose, hein. C'est le yin et le yang, le bien et le mal. Avec n'importe quel instrument, on peut faire des bonnes choses et on peut faire des mauvaises choses. Alors ça, c'est une question, beaucoup plus d'éthique que de science. N'importe quelle science peut faire des bonnes choses, peut faire des très mauvaises choses. Alors, moi, je suis assez optimiste qu'il y aura des bonnes choses qui vont sortir, mais effectivement, je ne suis pas naïf. Il y a des très mauvaises choses qui vont en sortir aussi.
Ouais. Est-ce que c'est important actuellement, est-ce que c'est important de tenter de légiférer un peu sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je sais que les gouvernements commencent à réfléchir à ça. En même temps, ce qui me fait peur, c'est que si on commence à légiférer, c'est qu'il y a peut-être d'autres pays qui vont dire oui, on va légiférer, mais eux, de leur côté, en secret, vont continuer à développer l'intelligence artificielle pour peut-être avoir l'intention de nous dominer un jour. Est-ce que c'est une bonne chose que les gouvernements s'en mêlent et tente de limiter un peu la progression.
Ben, comme toute technologie, il faut mettre des frontières. Par exemple, l'automobile, hein, c'est quelque chose que si on ne met pas de législation nulle part, les gens vont se tuer en voiture. Donc, on a mis des règles, des règles de conduite, ainsi de suite. C'est pas un hasard que la plupart des pays ont quand même des règles. Il y a des choses comme ça, mais il y a aussi dans le domaine. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a de la législation. Si on veut vivre ensemble, il faut se mettre des limites. Sinon, effectivement, par exemple, on a une limite sur les armes à feu, par exemple. Puis on voit où ça conduit lorsqu'il n'y en a pas. Si on regarde nos voisins du Sud, lorsqu'il n'y a pas de limite à la possession des armes à feu, ben, tout le monde se promène et tire sur tout le monde, à qui mieux. Alors, je pense que n'importe quelle technologie mérite à un moment donné d'être circonscrite par certaines lois, pour certains usages. Par exemple, une des choses qui fait peur avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est capable de reproduire la voix de quelqu'un, d'imiter des voix. Ben là, un appel téléphonique ne voudra plus rien dire. Par exemple, on ne saura pas si c'est vraiment la bonne personne à qui on parle. Alors, toutes ces choses-là, je pense que sans législation, on court après des graves problèmes. Même l'Internet actuellement souffre d'un manque de législation. N'importe qui peut se cacher derrière un écran et dire n'importe quoi, écrire n'importe quoi, et c'est anonyme. Lorsque le téléphone a été inventé, les gens avaient un numéro de téléphone et une adresse correspondante dans un bottin téléphonique.
Ouais.
On savait, on pouvait retracer un appel et savoir d'où ça venait. Maintenant, avec Internet, ça peut venir de n'importe où dans le monde et personne n'est obligé de s'identifier avec une adresse Internet. Alors, on voit déjà qu'il y a un problème de législation là, qui est un problème qui n'est pas réglé au niveau d'Internet. Puis si on pousse avec l'intelligence artificielle, ben là, je pense qu'on se prépare des sérieux problèmes.
Au niveau de la science, est-ce que le Canada est en avance ou le Québec, est-ce qu'on est en avance sur l'éducation pour nos enfants ou pour les adultes? J'ai pas l'impression. Moi, j'adore l'émission avec Boucard Diouf, là. Je sais que vous avez participé régulièrement à son émission aussi. Puis je me dis, ça fait du bien d'entendre parler de science à la radio. Parfois, j'écoute des émissions sur la science à la télé, puis j'essaie de m'éduquer de cette façon-là, mais j'aurais aimé avoir cette éducation-là, moi, au secondaire, une éducation sur la science qui était peut-être un peu plus évoluée que celle que nous avons eue. En tant que docteur en génie nucléaire, ingénieur, est-ce que vous avez l'impression qu'au Québec, on devrait peut-être mettre plus l'accent sur la science? Je sais que les Chinois sont très axés sur la science. Nous, on dirait qu'on traîne un peu de la patte.
En fait, c'est difficile de se comparer. Comme on dit souvent, on se compare puis on se console.
Ouais.
Il y en a des mieux, il y en a des pires. Par contre, je pense que c'est un fait, puis ça, je l'ai découvert un peu avec beaucoup avec l'émission de Boucard, La Nature, selon Boucard. Les gens sont excessivement intéressés. C'est des émissions qui cartonnent en termes de cote d'écoute. Et lorsqu'on en propose aux télédiffuseurs ou aux gens de la radio, c'est difficile. En fait, j'ai l'impression que les diffuseurs, les grands diffuseurs, sous-estiment l'intérêt du public pour la science. Ils ont l'impression que c'est un petit créneau qui intéresse presque personne, alors que finalement, ça intéresse beaucoup de monde parce qu'on vit dans une société technologique et moi, j'ai l'impression que la plupart des gens la comprennent de moins en moins. Alors, c'est un petit peu un paradoxe et je pense qu'on sous-estime beaucoup l'intérêt des gens et aussi l'intérêt des enfants. Je pense qu'à l'école, pour répondre à la question, est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'on devrait en faire plus? À l'école, oui, je pense qu'on devrait en faire beaucoup plus parce que les enfants arrivent à l'école avec beaucoup de questions
Ouais.
qui peuvent être bien répondues à travers la science et on ne leur répond pas. On leur dit, ah non, non, ça, c'est pas au programme, ça va être dans un cours de science, comme si le cours de science était quelque chose d'isolé. À part qu'on fera peut-être si on est parmi les plus brillants. Moi, je pense que tout le monde est capable de comprendre les fondements de la science si on le fait de manière progressive. Si on commence à répondre aux questions scientifiques, les questions que les enfants se posent au primaire, à la première année, et qui veulent savoir c'est quoi de la neige, puis pourquoi il pleut, puis c'est quoi des nuages, puis des changements de saison. Pourquoi tout à coup il fait plus froid et puis l'hiver arrive. Alors, les enfants se posent toutes ces questions-là et puis on leur dit tout le temps, ah non, c'est pas au sujet, puis ça sera plus tard. Plus tard, on perd ça en avant. Puis finalement, ce que ça fait, c'est que les enfants s'éteignent graduellement, ils posent de moins en moins de questions. Puis après ça, rendu à l'adolescence, on dit, ah, c'est ça, c'est des adolescents, donc ils sont plus intéressés. Pourquoi, par exemple, ils s'intéressent autant aujourd'hui au cellulaire? Je pense une des choses, oui, il y a des jeux, des choses, des trucs, mais il y a quand même, si on a une question à poser maintenant, on la pose à Google et puis Google nous
Ouais.
répond quelque chose. Alors, je pense qu'effectivement, pour moi, l'enseignement des sciences est un peu traîne de la patte un peu partout en Occident. C'est pas seulement qu'au Québec, c'est pas seulement qu'au Canada,
Ouais.
c'est un petit peu partout. On pense que les sciences, ça s'adresse seulement qu'à une élite. Et moi, je suis convaincu du contraire. C'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre-là, un truc qui
Ouais.
me trottait peut-être depuis longtemps, pour démontrer que les sciences, ben, c'est pour tout le monde. Et que, effectivement, ça intéresse tout le monde au départ, jusqu'à ce qu'on leur dise, c'est pas pour toi.
Oui, puis c'est grâce à des vulgarisateurs scientifiques comme vous, ou encore même comme Boucard Diouf, que on réussit à intéresser des gens puis à les éduquer sur la science. Bon, vous êtes docteur en génie nucléaire. T'sais, étant dans les médias, je me suis rendu compte que ce qu'on ne connaît pas fait peur aux gens. Et le nucléaire, on a l'impression que, bon, on a encore dans la tête là, les incidents ou les accidents nucléaires, puis ça fait peur. Puis il y a eu des séries qui ont été faites là-dessus, des films qui ont été faits là-dessus, ça a créé énormément de dommages. Mais aujourd'hui, en 2024, une centrale nucléaire, c'est la façon la plus propre de produire de l'énergie. Il y a pas d'autre façon plus propre que des nouvelles centrales nucléaires. Et au Québec, les gens ne savent pas ça. On a l'impression que c'est encore avec des barrages ou encore avec des éoliennes. Et quand je leur dis, oui, mais savez-vous qu'il y en a à peu près une vingtaine de centrales nucléaires au Canada, puis jamais on entend parler des dangerosités de ces centrales-là, puis c'est des centrales qui fonctionnent bien. Ah oui, il y a des centrales nucléaires au Canada. Ben oui, on a fermé Gentilly. À tort ou à raison, je veux pas faire de politique avec vous, mais on a fermé Gentilly. Mais on dirait que les Québécois sont craintifs du nucléaire, alors qu'aujourd'hui, c'est utilisé partout dans le monde et c'est la façon la plus propre de faire de l'électricité. Pourquoi on en est rendu là au Québec?
Ah, c'est une longue histoire, mais je pense que ça démarre avec la première utilité du nucléaire, ça a été de fabriquer une arme, de fabriquer une bombe. Hein? Je pense que si avant d'inventer le feu de bois, on avait inventé la dynamite en premier ou la poudre à canon, je pense que les gens auraient encore peur du feu de bois. Il y aurait peur que leur feu explose. Alors, il y a ça, il y a un côté historique que c'était d'abord une arme de guerre. qui est né prématurément, si on n'avait pas eu le projet Manhattan, où ils ont dépensé, le film récent de Oppenheimer le démontre,
Ouais.
c'est un projet pharaonique où ils ont dépensé 2 milliards de dollars en 1943. Tu sais, 2 milliards de dollars dans ce temps-là, là, c'est comme 200 milliards aujourd'hui. C'est un projet gigantesque. Et si ça n'eût été de ça, l'énergie nucléaire serait probablement pas apparue avant les années 60 ou même 80, parce que c'était simplement une curiosité scientifique. C'était, les atomes se tiennent ensemble à cause d'une force nucléaire qu'on peut libérer, qu'on peut briser. Oui, OK, c'est intéressant, mais on n'aurait pas creusé si vite dans ce tunnel-là, si ça n'avait pas été d'un intérêt donc militaire pour en faire une arme, parce qu'on craignait que les nazis ne le fassent en premier. Donc, il y avait une course aux armements. Et ben, le nucléaire va toujours rester avec ce stigmate, hein, de ses origines. Et pourtant, je pense que si ça n'avait pas été de la guerre, effectivement, la première application aurait été de fabriquer une source de chaleur pour faire de la vapeur et tourner des turbines et puis faire de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre. Et ça serait arrivé probablement plus tard, dans les années 80, tout bonnement, comme ça. On n'aurait d'abord pas fait une bombe parce que c'était difficile et compliqué de faire une bombe.
Ah ouais.
C'était pas garanti que ça allait fonctionner. Et il y avait beaucoup de gens, on n'en parle pas dans Oppenheimer, mais il y a beaucoup de gens au niveau militaire qui ne croyaient pas du tout, qui trouvaient qu'on dépense beaucoup d'argent. Et la seule raison pour laquelle ils l'ont fait, parce qu'il y avait la rumeur que les nazis travaillaient là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont intéressés à ce
C'est
sujet-là.
ce qui les motivait. Mais la connaissance du nucléaire au Québec, j'ai pas l'impression que les gens sont très connaissants de ça, alors que partout dans le monde, il y a des réacteurs nucléaires qui fournissent les villes en électricité, tandis qu'ici, si un jour on se pose la question à savoir, bon, ça nous prend-tu encore de l'électricité? Oui, ben, il faut faire un barrage ou des éoliennes, mais le nucléaire va venir en dernier, alors que techniquement, si on était éduqué, le nucléaire serait premier.
Ben, pas nécessairement. Au Québec, on est dans une situation particulièrement favorisée en termes d'hydroélectricité. Hein, on a encore quelques gisements d'hydroélectricité qui pourraient être exploités. Par contre, on se rend compte aussi que mettre des barrages sur les rivières, ça a des conséquences. Inonder des territoires, ça a des conséquences.
Ouais.
Des conséquences qu'on voyait moins dans les années 60 où on a fait nos plus grands projets. On est content de les avoir faits aujourd'hui, mais comme on dit dans n'importe quoi, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est jamais la bonne solution. Un mix de sources est préférable. Actuellement, le nucléaire aussi évolue. Les réacteurs nucléaires, comme Gentilly, c'est la technologie des années 60.
Exact.
Hein? Et pourtant, malgré tout, il y a eu très peu d'accidents et très peu de problèmes. Mais c'est un peu comme la même chose, on a peur de l'avion parce que quand ça crache, ça fait mal. Donc, ça arrive pas souvent, les probabilités sont faibles, mais ça nous fait peur parce qu'on n'a pas le contrôle et puis les conséquences sont dramatiques. Donc, au Québec, oui, on aurait pu continuer, par exemple, Gentilly, la réarmer, la refaire fonctionner, mais c'était une petite centrale sur le tas. C'était pas gros, hein, c'était 600 mégawatts sur une capacité totale de l'Hydro-Québec qui se chiffre en plusieurs dizaines de gigawatts. Donc, tu sais, c'était très peu. On a dit, bah, ça vaut pas la peine, on arrête ça plutôt que la réarmer. Par contre, ce qu'on a sous-estimé, comme toujours, c'est les coûts de démantèlement. Si on regarde les coûts de démantèlement de ça, ah, il aurait peut-être fallu mieux la réarmer. En tout cas, mais à ce moment-là, il y avait la pression de Fukushima, l'accident de Fukushima,
Exact.
qui s'est fait engloutir par un tsunami et puis une circonstance exceptionnelle. Et effectivement, dans l'opinion publique, ça a pesé lourd. Et même que ça a fait, même de l'Allemagne a abandonné son programme nucléaire pour se tourner vers, tenez-vous bien, le charbon. Alors, ils ont fait un recul, hein? L'évolution, c'est pas toujours linéaire en ligne droite et on avance un pas après l'autre, hein? Parfois, on fait un pas en avant et puis deux pas en arrière
Exact.
pour mieux prendre un élan et rebondir. Et surtout, mesurer est-ce qu'on fait la bonne chose,
Ouais.
hein? Et les réacteurs nucléaires d'aujourd'hui sont beaucoup mieux que ce qui était dans les années 60, on s'en doute bien. On parle de réacteurs modulaires qui peuvent être déployés rapidement.
Ouais.
Et donc, on ne parle pas de faire des méga centrales, on parle de faire des petites centrales locales, un peu comme un petit réseau, selon les besoins, qu'on peut installer tout près des villes, au lieu d'avoir des grandes lignes de transport, de grande capacité. Alors, toutes ces choses-là, comme n'importe quelle technologie, ça change avec le temps et ça s'améliore, ça se miniaturise. Et puis, ça prend plus 20 ans, puis 30 milliards pour faire une centrale nucléaire.
Ouais. Pour ce qui est de Gentilly, bon, on a décidé de fermer Gentilly. C'était le Parti québécois de Pauline Marois, de mémoire, qui avait décidé de fermer Gentilly. Puis après ça, on a dit, ben, faut quand même la garder ouverte, même si elle ne produit plus d'électricité, parce qu'on doit refroidir le noyau. On parle de plusieurs années, c'était-tu entre 50 et 100 ans, là?
Ah non, on parle des déchets nucléaires, là, du reste, des restes. Pour refroidir le noyau du réacteur, là, ça c'est rapide, le
OK.
noyau lui-même. Bon, mais il y a tous les déchets. Mais tous les déchets de Gentilly, là, ça rentre dans une piscine de 20 pieds par 40 pieds. Hein. C'est pas
OK.
plus que ça. C'est la quantité que ça a produit en 30 ans d'usage. C'est pas une grande quantité. Évidemment, ils sont radioactifs pour 100 000 ans. Ça, c'est un autre problème. Mais la radioactivité naturelle, il y en a un peu partout. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont radioactives. Par exemple, manger une banane par jour, hein, ça va vous donner une dose de radioactivité aussi grande que s'exposer au soleil. Alors, dans les bananes, il y a du potassium 40 qui est radioactif.
Ouais.
Fait que d'ailleurs, on compte souvent une façon imagée de compter les doses de radioactivité, c'est en nombre de bananes. Alors, donc, il y a quand même une exposition naturelle à la radioactivité. Et évidemment, si on a des doses trop fortes, pour les humains, c'est dangereux. Mais il y a moyen de confiner ça à long terme dans des formations géologiques stables, dans le bouclier canadien qui ne bougera pas pour les prochains millions d'années. Donc, il y a des solutions et ce n'est pas des vastes quantités. On ne parle pas de montagnes. Souvent, quand on parle de déchets, on a l'image d'un dépotoir avec des montagnes de déchets. On est très, très loin de ça. Mais comme vous dites, on n'est pas informé de ces choses-là.
Non.
On ne les voit pas.
Comment Normand Bray en est venu à devenir docteur en génie nucléaire? Est-ce que très jeune, vous étiez très motivé par la science et quelque chose qui vous intéressait beaucoup? Vous étiez extrêmement curieux?
Ah oui, je pense que tous les enfants le sont. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un père adoptif qui était. Mes parents étaient trop vieux pour avoir des enfants, donc ils nous ont adoptés, moi et ma sœur. Et j'ai eu la chance d'avoir pratiquement un grand-père comme père qui me laissait tout faire. Il y avait un atelier de fabrication de meubles dans le sous-sol et il me laissait jouer avec tous les outils, mettre l'endroit sans dessus dessous et sans jamais me réprimander pour ça. Alors, il me laissait faire. Il était très fier de ça, que je prenais une aiguine, que je sciais des morceaux de bois assez épais. J'avais à peine 3 ans et puis il me laissait jouer avec tout, sauf les outils électriques. J'avais pas le droit. J'ai eu droit seulement que vers l'âge de 13-14 ans, là, les outils électriques.
Ça, c'était la
Mais
fierté, là. À 13-14 ans, c'était la fierté de pouvoir toucher les outils électriques de son
ah oui,
père.
une scie sauteuse de bandit. Je me suis mis moi-même à construire des meubles à ce moment-là. Tu sais. Mais à travers tout ça, je voulais toujours fabriquer des choses, construire des objets, des cerfs-volants. Je voyais toutes sortes de choses et je me disais, je vais être capable de fabriquer ça. Et quand ce n'était pas ça, ben, c'était de regarder une radio, un moteur et voir ce qu'il y avait dedans. Donc, essayer de démonter tout ce qui traînait. Alors, dans le voisinage, la rue de la Salle, il y avait une espèce de magasin de réparation de radio. Il y avait une grosse poubelle en arrière dans laquelle ils jetaient tous les appareils qui ne fonctionnaient pas, les vieilles télés, tout ça. Alors, on passait sous la clôture le soir, on allait se ramasser des morceaux pour aller voir ce que ça pouvait faire. Alors, très tôt, je me suis fabriqué, par exemple, un petit électro-aimant avec lequel j'ai failli m'électrocuter, d'ailleurs, pour voir comment ça pouvait fonctionner. Alors, il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là pour voir, il n'y avait pas de YouTube pour t'enseigner comment ça marche. Alors, on faisait beaucoup d'essais-erreurs et plus d'erreurs que d'essais, en fait. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, c'est ça. J'ai toujours, en fait, je suis tombé dedans comme Obélix dans la potion magique, là, très jeune, puis j'ai jamais arrêté.
Étiez-vous un élève modèle à l'école? Est-ce que vous étiez un premier de classe?
Ben, au primaire, oui, mais lorsque j'ai commencé le secondaire, je n'avais pas assez de réponses à toutes mes questions. J'étais un élève qu'on aurait probablement qualifié aujourd'hui de TDAH parce que je posais toujours des questions en classe, je répondais, j'étais bavard, disons, et puis les professeurs n'aimaient pas tellement. Se faire questionner sur ce qu'ils enseignaient. Et moi, je disais, mais pourquoi on apprend ça? À quoi ça sert? Et puis, on répondait, ben, parce qu'il faut, parce que. Et j'étais déçu en fait, le premier cours de science, j'étais très déçu de ce qu'on nous apprenait. Moi, j'avais plein de questions. J'avais hâte au premier cours de sciences, et puis en secondaire 2. Et puis, on répondait jamais à mes questions. On me disait, non, non, il faut faire telle expérience ou il faut mesurer la densité de la roche, faire ci, faire ça. Et toutes les manipulations où il fait juste simplement faire la manipulation, mesurer, calculer. Et pourquoi faire ça, je ne sais pas. Alors, je sabotais les expériences, puis j'allumais des. On avait des Beck Bunsen au gaz, non? Puis j'allumais des feuilles de papier avec ça. J'étais vraiment un enfant turbulent. De sorte que mon professeur de secondaire 2, hein, initiation aux sciences physiques, m'a fait couler mon cours. Il m'a mis dehors tellement souvent de la classe que j'ai effectué mon premier cours de sciences. Il faut le faire, hein, quand même.
Oui, bien surtout qu'après vous êtes devenu ingénieur puis docteur en génie nucléaire, là, je ne sais pas s'il si a été mis au courant de ça par la suite, là, mais ça a dû lui faire un choc.
En fait, suite à ça, d'ailleurs, ça a pu être un grave problème parce que j'avais pas le droit. C'était un prérequis pour le cours de chimie de l'année suivante en secondaire 3. Et comme j'avais pas réussi le prérequis initiation aux sciences physiques, on m'a barré la route. Alors moi, je suis allé voir le directeur des secondaires 3, puis je lui ai dit, je veux prendre le cours de chimie l'année prochaine. Mais il dit, oui, mais monsieur Barret, vous n'avez pas le prérequis, initiation aux sciences physiques. Oui, mais le cours était nul et plate, et le professeur était pas bon, carrément. Alors, je me suis défoulé comme ça, et puis le directeur a dû trouver ça très drôle, parce qu'il a dit, finalement, il dit, écoute, laisse-moi une semaine, je te reviens avec une réponse. Une semaine plus tard, il me revient, il dit, bon, OK, je t'accorde le passage pour le cours de chimie, là, tu peux le prendre, hein, mais s'il y a des problèmes, viens pas me voir, hein, si tu coules ton cours de chimie. Et ce n'est pas coulé pour cours de chimie, au contraire, c'est parti en grande. J'ai eu au-dessus de 90, ça a bien été. Il y avait un bon prof, il répondait à nos questions, c'était intéressant. Et je me suis mis surtout à lire les livres. Percevoir finalement qu'au lieu d'écouter le prof, dans le livre, il y avait tellement de réponses à tellement de questions, c'était tellement bien fait, que ça me permettait d'arriver au cours préparé, puis de poser des bonnes questions au prof, et de faire un cours vraiment intéressant. Puis là, c'était vraiment bien parti. Ma seule force qui a permis de faire ça, c'est que j'étais bon en maths. Donc, le fait que j'avais des bonnes notes en maths, bien, ça m'a donné un petit coup de pouce pour que le directeur des secondaires 3 me signe un papier, là, pour prendre le cours de chimie.
Ben, je pense que les enfants sont toujours très ouverts à être éduqués sur les sciences. Exemple, moi, je me rappelle de mes gars, tu sais, c'est pas des petits gars qui tripent nécessairement sur l'école. C'est des petits gars un peu comme leur père. C'est-à-dire, si c'est intéressant, ben on va écouter. Si c'est pas intéressant, on va être porté peut-être un peu plus à déranger les camarades ou à parler ou à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Moi, quand j'ai commencé à expliquer à mes gars, c'était quoi la particule de Dieu, tu sais. Moi, j'ai toujours dit à mes gars, Dieu, les gars, je ne sais pas s'il existe, parce que eux ont une marraine qui est une croyante, puis ça, il faut avoir du respect pour ça. Mais ils me demandaient à moi, papa, Dieu existe-tu? Je dis non, je ne sais pas, je ne peux pas te donner de réponse là-dessus, je ne le sais pas. Par contre, la particule de Dieu existe. Et là, hein, la particule de Dieu existe? Ben oui, j'ai commencé à parler du boson de Higgs. Et quand je leur ai parlé du boson de Higgs, là, tout d'un coup, les yeux se sont écarquillés et ils ont désiré en savoir plus. Puis on a regardé des capsules sur YouTube, Initiation au boson de Higgs pour les nuls, exemple, et j'ai réussi à aller les chercher par là. C'est une curiosité qu'il y avait au départ. Ils cherchaient une réponse, j'avais pas nécessairement la réponse. Puis par la suite, on a bifurqué vers la science, le boson de Higgs. Il y a plein de belles choses comme ça qu'on peut découvrir avec nos enfants en tant que parents, là.
Exactement. C'est ça. Les enfants, lorsqu'on les allume, lorsqu'ils sont intéressés, ils sont capables de tout. Il suffit de les motiver. Puis effectivement, le boson de Higgs, c'est une belle histoire. Puis d'ailleurs, il y a une raison pour laquelle ça s'est appelé la particule de Dieu.
Ah oui?
C'est que ça fait cinq. Ils l'ont cherché pendant 50 ans. Et les chercheurs, en anglais, disaient the goddamn particle. Entre eux, c'était le mot qui disait on la cherche, cette foutue particule.
Exact.
Goddamn particle. Puis là, les journalistes se sont emparés du terme et l'ont traduit la particule de Dieu. Mais c'était plutôt ça le début. C'était une frustration de ne pas la trouver parce que dans le modèle standard des particules, c'était le gros trou dans le puzzle. En
Ben oui.
plein centre du puzzle, là, il manquait une grosse pièce. Qui faisait que le modèle il boitait un peu, là. C'est comme un beau puzzle où il manque l'œil l'œil de la figure de la personne qui est dans le puzzle, hein, tu sais.
Ouais.
Alors, lorsqu'on l'a trouvé enfin, et puis ça a pris un accélérateur de particules excessivement, hein, au CERN pour réussir à casser des particules assez pour que le boson de Higgs se révèle. Parce que finalement, des accélérateurs de particules, c'est un peu comme prendre une montre, hein, dans laquelle il y a des petits rouages, des engrenages, des choses, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et puis on la lance sur un mur. Et on la lance de plus en plus fort parce qu'à mesure qu'on la lance dessus, bien, il y a des engrenages qui revolent à gauche puis à droite, puis des ressorts, des choses. Puis on ne lançait pas assez fort pour que le boson de Higgs, là, le petit morceau, puisse sortir de la montre. Et là, effectivement, on y est arrivé. Et puis c'était une consécration parce que d'ailleurs, M. Higgs, d'ailleurs, est décédé hier, je pense.
Ah oui.
On vient d'annoncer dans la presse de ce matin qu'il est décédé à l'âge de 94 ans. Il est de l'Université d'Édimbourg, mais lui-même, il pensait jamais de son vivant qu'on aurait découvert son fameux boson qu'il avait prédit théoriquement. Ça aussi, c'est assez fantastique. Les mathématiques nous permettent de faire des prédictions comme ça. En 1964, ce monsieur-là fait une théorie, puis mathématiquement, ça se tient. Et donc, dans son équation, le boson de Higgs, avec une certaine énergie et certaines particularités, donc des propriétés, on a fait son portrait, là, portrait robot, boson de Higgs, puis dit, maintenant, expérimentateur, cherchez-le, trouvez-le. Parce que s'il existait, là, notre théorie serait complète. Alors, ils sont mis à la chasse, mais ça a pris 50 ans avant qu'on le trouve. Mais
Ouais.
c'est ça qui est fantastique. Les mathématiques prédisent des choses que les expérimentateurs découvrent beaucoup plus tard. Alors, sans la piste des mathématiques, on n'aurait jamais vraiment. On a pris beaucoup de temps à chercher parce qu'on n'a pas de preuve qu'on va trouver quoi que ce soit. Mais les mathématiciens nous indiquent, les physiciens théoriciens nous indiquent les directions dans lesquelles il faut creuser.
On parlait de la goddamn particle, mais est-ce qu'un Normand Bray, qui est un ingénieur et docteur en génie nucléaire, vous êtes un scientifique, vous êtes un chercheur, est-ce que vous croyez en Dieu?
Ben, moi, c'est que je trouve que les Incas avaient plus de raisons de croire au soleil
Ouais.
qu'en Dieu, parce que le soleil, ils le voyaient. Il l'avait dans la figure à tous les jours. Donc, et le soleil, en ce qui nous concerne, ce point de vue énergétique, c'est un dieu sur la planète Terre. Parce qu'on l'a vu avec l'éclipse, si le soleil s'éteignait, on vivrait pas très longtemps. Parce que c'est notre seule source d'énergie
Exact.
externe qui nous fournit tout. Donc, est-ce que Dieu existe? C'est une question, je pense que ça demeure à ceux qui y croient de le prouver, parce que c'est difficile de prouver un négatif. Hein? Par exemple, moi, je peux croire qu'il y a, par exemple, une théière qui se promène en orbite, autour de Jupiter. Mais est-ce qu'elle est là? Je ne sais pas. Elle est trop petite pour que je la voie. Là, je l'ai vu avec un télescope, mais je peux y croire. Je peux croire qu'il y a une théière carrément qui se promène en orbite autour de Jupiter. Mais puis moi, je vous renvoie la question, est-ce que vous croyez à ma théière? Ben, je ne sais pas, je ne peux pas le prouver, je ne peux pas prouver que ce n'est pas vrai, je ne peux pas prouver que c'est vrai.
Ouais.
Donc, c'est une question ouverte.
Bon, monsieur Bray, je vais répondre à ma propre question, là. Il doit certainement y avoir quelque chose. Sous quelle forme, on ne le sait pas, mais au niveau mathématique, tout est parfait constamment. Toute la vie est bien faite. On naît, on meurt, on a des ressources pour pouvoir évoluer sur cette terre-là. Il y a certainement quelque chose à un moment donné qui s'est passé pour qu'on puisse être ici. Quoi? Je ne sais pas. Mais s'il y a quelque chose, s'il y a de la matière, il a fallu que ça se fabrique quelque part. Il a fallu que ce soit pensé quelque part. Mais qu'est-ce qu'il y a? On ne le sait pas.
Non, je pense que c'est ne pas savoir n'est pas un problème en science. Au contraire, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Ça fait partie de ça. Par contre, l'hypothèse Dieu a servi pendant des siècles à expliquer tout ce qu'on ne connaissait pas. Notre savoir progresse et fait reculer, si on veut. Le Dieu du vent n'existe plus, hein? Le Dieu soleil n'est plus. Le dieu de l'eau, le dieu de la mer, tous les dieux grecs et romains et les panthéistes n'existent plus. Il n'en reste qu'un seul qui est Dieu créateur de l'univers. Ben, mais on est rendu là. Mais qui a créé l'univers? On n'en sait rien. Et puis si on recule d'une étape, qui a créé Dieu à ce moment-là? On n'a pas de fin à notre questionnement. Je pense que c'est un sujet qui nous dépasse. Le fait que l'on existe, ça nous dépasse même. Notre propre existence est un mystère. Et il n'y a pas raison de croire, avec ce qu'on connaît de la physique d'aujourd'hui, de la chimie, de la biologie, il n'y a pas raison de croire qu'ailleurs dans l'univers, il y a aussi de la vie, sous des formes complètement différentes de la nôtre. Juste sur notre planète, il y a des millions d'espèces différentes qui ont fabriqué des objets, des choses, je veux dire, des entités de formes tellement variées. Alors, ça serait intéressant de voir ailleurs dans l'univers, avec d'autres conditions de température, de pression, de liquide, de ci, de ça, de quoi la vie est capable. Parce que finalement, la matière a tendance à s'organiser et à se structurer d'une certaine manière. Et puis, à un moment donné, il apparaît quelque chose qui est capable de se reproduire, de faire des copies. C'est une molécule, on appelle ça l'ADN, elle fait des copies d'elle-même. Et puis, c'est pas encore vivant, mais ça va vers ça. Parce que lorsqu'on est capable de préserver de l'information à travers une molécule, ben, tout d'un coup, on est capable de construire quelque chose qui se perpétue. Et
Dans votre
oui.
livre, Normand Bray, La science nous émerveille, vous répondez à plusieurs questions, puis il y a une question qui est assez importante, la question qui tue, pourquoi meurt-on? Est-ce que vous avez la réponse?
Oui, en fait, la réponse courte, pourquoi on meurt, c'est que si personne n'était mort depuis les débuts de l'humanité, on serait 100 milliards sur la planète. Okay? Alors, la réponse courte, c'est que la nature a inventé la mort de tout ce qu'elle fabrique pour en faire une entreprise durable. Si aucun être vivant ne mourait, ça serait pas durable parce qu'on est fabriqué des mêmes éléments, tout le monde est fabriqué de mes mêmes blocs Lego. Et puis un jour, on va manquer de blocs Lego pour fabriquer des êtres vivants. Donc la nature a inventé autant la vie avec une fin parce que c'est impossible de toujours en ajouter en puisant dans un réservoir de matière qui est fini. Alors la croissance à l'infini, c'est une vue de l'esprit. Alors je pense que c'est ça. Rapidement, c'est que la nature a dit, ben, pour créer des nouveaux êtres vivants, j'ai besoin que les anciens arrêtent de fonctionner pour me servir de cette matière-là et d'en fabriquer des nouveaux, des faire évoluer, des faire changer aussi, parce que les conditions d'environnement changent. Hein? Si on était resté des Néandertals, je ne suis pas sûr qu'on survivrait aujourd'hui. Alors, puis c'est vrai que pour toutes les espèces vivantes, elles changent constamment de génération en génération parce qu'elles s'adaptent, si on veut, à leur environnement qui change aussi.
Ouais.
Les mieux adaptés survivent. Pas nécessairement les plus forts. Souvent, on a la tendance à voir la biologie comme la loi du plus fort, la loi de la jungle. C'est pas vrai. C'est plutôt les espèces qui réussissent, qui ont facilité à s'adapter à un nouvel environnement, vont proliférer davantage. Donc, on va en retrouver plus dans la prochaine génération. Mais
Exact.
c'est pas nécessaire. Ouais.
Autre question. Là, ça, c'était une légende, là. On nous avait dit quand on était jeune que Walter Disney s'était fait cryogéniser, alors que c'est totalement faux. Walter Disney n'a pas été cryogénisé, mais on nous avait dit que c'est possible, ce serait possible qu'un jour on puisse être congelé à notre mort, puis que par la suite on puisse nous ressusciter par la suite. Moi, je pense que le chemin n'est pas nécessairement le bon, là, parce que si la capsule est plus valide, pourquoi réanimer quelqu'un dans cette capsule-là? Ce serait totalement fou. Mais quand vous dites qu'il y a de l'information qui est écrite dans l'ADN, est-ce que je sais pas moi, la vie sur Terre où il y aurait plus personne qui pourrait mourir passerait par cet ADN-là?
Ah, la quête de l'immortalité, ça c'est vieux comme le monde. Et d'ailleurs, c'est la grande promesse de toutes les religions, c'est qu'il y a une vie après la vie et qu'on n'est pas vraiment mortel. Alors, ça, on aime bien croire à ça. Est-ce que quelque chose peut toujours se perpétuer? Même, tu sais, si on regarde même les grandes, on parle tantôt de la création de l'univers, même l'univers évolue et change. Un jour, toutes les étoiles aujourd'hui qui font de la fusion nucléaire, qui fusionnent et fabriquent des atomes, les étoiles éventuellement vont s'éteindre. Notre Soleil va finir de carburer, finalement de fusionner tout ce qui peut fusionner, et puis un jour va carrément exploser et il aura sa fin de vie. Donc, même la matière inerte, si on veut, la matière a un début et une fin. Alors, je pense que le problème de la conscience, de l'émergence de la conscience, c'est qu'on voudrait que cette conscience-là ne cesse jamais, parce que c'est difficile d'admettre que nous sommes des êtres éphémères, et puis que finalement, ce qui vit le plus longtemps en nous, c'est une molécule qui veut se perpétuer, puis c'est notre ADN. Alors, la reproduction, on est programmé pour se reproduire. La molécule qui, si on veut, qui mène le bal, c'est l'ADN, mais même elle évolue et change dans le temps. Hein, l'ADN de l'être humain ne sera pas le même dans 300 000 ans, comme il n'était pas le même non plus il y a 300 000 ans. Donc, il va changer, parce que une machine à photocopier fait des erreurs éventuellement. Puis, la machine à photocopier, éventuellement, les erreurs cumulatives vont amener quelque chose de change, quelque chose de différent à la fin. Alors, la question, est-ce que quelque chose peut être éternel? Il n'y a rien. C'est sûr qu'on peut arriver vers un prolongement de la vie. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde veut. Et d'ailleurs, on l'a obtenu parce que si on regarde l'espérance de vie depuis 150 ans, elle a pratiquement doublé.
Oui.
C'est phénoménal. Et si on revient à l'intelligence artificielle ou augmentée, aux capacités des puces électroniques, un jour, on pourra peut-être downloader ce qu'il y a dans le cerveau d'un humain dans une machine et avoir que cette personne-là continue, si on veut, son intellect continue d'exister, mais sous une forme électronique.
Mais c'est ça, ce ne sera plus cette personne-là. Ça va être l'information qui a été captée de cette personne-là qui va continuer dans le temps. Mais nous, techniquement, on devrait partir, en tout cas, à ce qu'on me dit. J'avais déjà lu quelque part, puis vous me direz si je fais fausse route, mais dans l'ADN, on avait découvert qu'on avait commencé à étudier les animaux, puis on se posait des questions à savoir, mais pourquoi un bébé qui naît connaît pratiquement tout de suite ses prédateurs? Puis on avait découvert, les scientifiques du moins avaient découvert que il y avait de l'inscription dans l'ADN qui faisait en sorte que quand le bébé naissait, il était capable de faire des choses, d'autres choses, il y avait un petit peu plus de misère, mais il savait qu'il pouvait pas faire confiance à telle ou telle bête, et ça semblerait que c'était inscrit dans l'ADN. Est-ce que chez l'être humain, je le sais pas moi, mon arrière-grand-père il s'est noyé, puis moi ben j'arrive plus tard, puis j'ai une peur irrationnelle de l'eau. Est-ce que ça pourrait être dû au fait d'un traumatisme que mon arrière-grand-père aurait vécu, qui se serait transmis par l'ADN au même titre que les animaux puissent se transmettre leur peur?
Ouais. L'ADN, c'est une grosse machine. Et puis, actuellement, on a décodé le génome humain depuis 20 ans. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment il fonctionne, comment la machine fonctionne. En gros, on a répertorié tous les éléments de la machine, tous les engrenages et les morceaux. Mais comment la machine tourne, on ne sait pas encore. Comment elle fabrique ses protéines et pourquoi certains gènes s'activent et d'autres ne s'activent pas, on ne le sait pas. C'est à partir des grands trous. On pensait qu'une fois qu'on aurait le génome humain, ça y est, on sait tout, c'est fini. Non, on a simplement répertorié le génome, mais on ne sait pas comment il fonctionne, comment il interagit, comment les gènes s'activent ou se désactivent de génération en génération. Et c'est certain que l'expérience des parents influence, on sait qu'il y a peut-être une influence sur la progéniture, mais c'est une question ouverte,
Mais les
effectivement.
expériences antérieures de nos arrière-grands-parents ou grands-parents, c'est pas retransmis, ça? Ça serait pas retransmis dans l'ADN à votre connaissance?
Ben, oui, d'une certaine manière, mais c'est dilué, hein. Il y a une dilution à ce moment-là. Parce que quand on parle de reproduction, on parle plutôt de procréation. L'invention de la sexualité, finalement, c'est une belle invention. C'est qu'on partage deux individus, on fabrique un troisième complètement différent, qui est
Ouais.
complètement nouveau. Alors, c'est créateur de beaucoup de nouveautés. Et puis, c'est pas exactement la somme des deux parents. C'est quelque chose de complètement différent, de nouveau. Donc, oui, on va hériter de certains traits physiques, de certaines choses qui sont remarquables, mais après, si on regarde le bagage génétique, ce qui est programmé pour construire un cerveau humain, des réflexes qu'on appelle, ben, ils sont minimum, hein, pour un bébé humain. C'est le réflexe de respirer et puis des
Ouais.
réflexes de survie à la naissance. Alors, on a très peu de bagages préprogrammés, si on veut, d'instinct. Il y a beaucoup chez l'humain, on est des animaux d'apprentissage. Dépendant de notre environnement, de ce qu'on va apprendre, ça va déterminer beaucoup de l'avenir, beaucoup plus que la plupart des espèces. Un petit cheval naît, et puis c'est pas long qu'il est capable de courir pour sauver sa peau,
Ouais.
mais son temps de gestation est beaucoup plus long. Relativement parlant. Donc, nous, on vit au monde excessivement démunis avec nos 100 milliards de neurones. Là, c'est comme un kit d'électronique où il y a 100 milliards de processeurs, mais ils ne sont pas connectés encore. Il y a des connexions minimum pour permettre de fonctionner. Hein, le tube digestif fonctionne et puis la respiration. Puis c'est à peu près tout. Même la vision n'est pas claire, l'ouïe pas non plus. Plein de nos facultés ne sont pas là encore. Ça prend beaucoup de temps à connecter tous ces neurones-là. En fait, pour un enfant, jusqu'à l'âge de 15 ans, où notre cerveau va quadrupler de volume, ben, il se connecte parce que toutes ces connexions-là, qu'on appelle les synapses, il va se connecter 2 millions de synapses par seconde. À toutes les secondes, dans le cerveau d'un enfant, il y a 2 millions de connexions qui se font. C'est énorme. C'est un vaste chantier qui va faire effectivement augmenter la taille de la tête énormément. Et puis là, on va avoir si on veut, la machine, l'ordinateur, le cerveau humain, il va être connecté. Mais toutes ces connexions-là, ça se passe sur une période d'une quinzaine d'années. C'est un gros chantier de construction et c'est ce qu'on appelle l'éducation, justement. Ça nous amène à l'éducation. L'humain est un animal qui, sans éducation, irait pas très loin.
Mais...
Alors, beaucoup de transmission se fait des parents et des grands-parents vers les enfants. Puis les grands-parents, le fait qu'il existe des grands-parents aujourd'hui est quand même une rareté dans l'histoire de l'humanité. Pendant très longtemps, étant donné la longévité, les grands-parents, il y a très peu de gens qui avaient des grands-parents. Les grands-parents mouraient avant que l'enfant ait l'âge de les connaître.
Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec l'ingénieur et docteur en génie nucléaire, Normand Bray. Il vient nous présenter son livre Quand la science nous émerveille. On va faire une courte pause, puis on va continuer quelques minutes après. Ce soir, on a le plaisir d'être avec Normand Bray. Qui est Normand Bray? C'est un ingénieur et docteur en génie nucléaire. Il nous présente ce soir son livre Quand la science nous émerveille. C'est un livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, Monsieur Bray?
Oui, toutes les bonnes, les pas bonnes, je ne sais pas, je ne les connais pas.
Voilà, en plus, vous avez eu une belle préface de Boucard Diouf.
Oui, effectivement, Boucard est un individu extraordinaire, excessivement généreux, que j'ai eu le bonheur de rencontrer en 2020 à l'occasion d'une levée de fonds de la Fondation des artistes. Alors, je voulais avoir un souper avec lui et sa charmante épouse, et puis je l'ai fait un don à la Fondation pour avoir ce privilège-là. Et puis, c'est un immense plaisir de connaître ce personnage absolument génial. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un de plus intelligent que Boucard Diouf. Ensemble, ce qu'on veut définir l'intelligence, c'est l'envergure, non seulement son côté scientifique, mais le regard qu'il pose sur les humains, son côté humaniste,
Ouais.
qui est excessivement puissant, et sa capacité de communication, de vulgarisation. J'avais été séduit. Alors, on a eu une belle rencontre et puis il m'a invité à son émission. Et c'est comme ça que j'ai fait avec lui 5 émissions de la nature selon Boucard en 2 ans. Et puis, s'il avait continué, j'aurais voulu continuer avec lui parce que c'est tellement plaisant de faire ces émissions-là. On pose des questions d'intérêt général et on le regarde sous l'angle de la biologie, de la chimie, de la physique, de ce qu'on en sait et on décrit aussi ce qu'on ne sait pas. Parce que c'est le propre de la science de mesurer ce qu'on ne sait pas et de continuer à se poser des questions.
Ouais. Vous étiez deux curieux, deux passionnés, puis ça s'écoutait très bien, vos émissions, soit dit en passant, M. Bray. Je vous pose une question. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir voyager dans le temps? Techniquement, est-ce qu'on pourrait le faire actuellement ou est-ce que ce sera possible de le faire?
Alors, théoriquement, tout est toujours possible, hein? Dans la pratique, c'est autre chose. Alors, le temps selon Einstein, le temps était une illusion. C'est illusion là-dessus. Pourtant, dans la réalité, on voit bien que le temps avance pour nous. Nous sommes des êtres mortels qui ont grandi, on cesse de grandir un jour, puis après, on ratatine comme un beau petit raisin sec. Et puis, et c'est comme ça pour les fruits, pour n'importe quoi. Il y a un temps qui s'écoule, il y a des changements qui se produisent. Alors, on aimerait bien voyager dans le temps, Et puis, dans le fond, la seule façon qu'on a trouvée à date de voyager dans le temps, c'est de regarder au loin, de regarder dans
Dans
l'espace,
l'espace, ben
parce que
oui.
la Oui, parce que la lumière prend un certain temps à nous parvenir. Alors, quand on regarde une étoile qui est, comme on dit, située à 4 années-lumière, ben la lumière a mis 4 ans à nous parvenir. Alors, si quelqu'un nous envoyait un message de là, ben s'il l'a envoyé il y a 4 ans. Alors, avoir une conversation avec quelqu'un à 4 ans de distance, là, c'est allô, on attend 4 ans, en fait 8 ans, parce que le temps qu'elle se rende et que ça revienne, ça va être 8 ans avant d'avoir une réponse. Là, on mesure l'étendue de l'univers, mais on mesure que le temps est quelque chose qui dépend de l'espace, qui dépend d'une chose que Einstein a découvert, qui est la vitesse de la lumière. Alors, le fait qu'il existe une vitesse limite dans l'univers, si on pouvait se déplacer à cette vitesse-là, ou tout près, le temps pourrait s'arrêter. Alors, on ne sait pas encore si on peut le reculer, donc voyager dans le passé. Sauf en regardant dans l'espace, sinon on voyage dans le passé par le regard. Mais voyager dans le temps, comme on en voit des films là, de voyage dans le temps, Retour vers le futur, c'est un bon exemple. Ben, pour l'instant, ça reste de la haute voltige, de la science-fiction, et qui, pour la théorie actuellement, on ne sait pas trop comment on pourrait faire ça.
Ah, puis, au niveau de l'éthique aussi, parce que le jour où on découvrira comment faire les voyages dans le temps, on va être capable de prévenir la Première Guerre mondiale qui a créé énormément de dommages. On va être capable d'empêcher la Deuxième Guerre mondiale qui a créé énormément de dommages. Donc, il va y avoir des questions éthiques à se poser à ce niveau-là. Et le pays qui va détenir cette technologie-là peut devenir une surpuissance mondiale, peut dominer la Terre s'il est capable de voyager dans le temps. Là.
En fait, le meilleur livre de science-fiction à ce sujet-là a été écrit par Isaac Asimov dans les années 60. Ça s'appelle La fin de l'éternité. L'éternité était une espèce d'organisation qui avait découvert le voyage dans le temps et qui contrôlait, une espèce d'organisme gouvernemental qui contrôlait le voyage dans le temps du point de vue éthique, qui essayait de ne pas interférer, de pas trop faire des changements. Parce qu'au début, ils se sont rendus compte, justement, ils essayaient d'éviter des guerres. Ils évitaient des guerres, mais en évitant une guerre, ça créait une autre catastrophe. À modifier le temps, on joue un petit peu à l'apprenti sorcier, et ce qu'on évite parfois génère des choses encore pires. Alors, éventuellement, ils se sont sabordés, ils ont arrêté de faire ça dans le roman, mais ils expliquent beaucoup toutes les conséquences de modifier le passé. Et pour espérer un futur meilleur. En fait, vaudrait mieux travailler sur le présent au mieux de nos connaissances pour avoir un meilleur futur.
Ouais, c'est ça. Ben, voyage dans le temps, quand c'est pour revenir à l'arrière, ce serait des questions éthiques. Quand c'est pour aller dans le futur, là, ce serait un peu plus complexe parce qu'il faudrait que ce futur-là ait déjà existé.
Oui, par exemple, le voyage dans le futur qu'on peut imaginer, c'est prenons des jumeaux. Hein, on en prend un, on l'envoie dans une fusée. Il fait un long voyage, mais il va à une vitesse près de la vitesse de la lumière. Pour lui, le temps ralentit. Hein. Il revient sur Terre. Lui n'a vieilli que dans sa. Dans, lui a l'impression d'avoir vieilli d'une année, et son jumeau a vieilli de 10 ans, par exemple. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on sait qui est possible. Donc, on peut ralentir le temps. On peut ralentir la vitesse à laquelle il s'écoule, on peut mettre les freins, autrement dit, sur le temps, mais on ne peut pas l'inverser pour l'instant.
Monsieur Bray, je conseille votre livre à tout le monde, Quand la science nous émerveille. Vous parlez de plusieurs sujets. Vous parlez du doute qui est un moteur du savoir, les questions des enfants. En tant que parent, j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là, les questions des enfants, parce que maintenant, j'ai de l'air plus intelligent quand je leur dis des choses. Vous parlez de l'énergie, de quoi sommes-nous faits, l'eau, le temps, les conversations avec la nature, jusqu'où irons-nous, où voulons-nous aller. Tout ça, c'est dans votre livre que je conseille à tout le monde et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. J'espère que c'est pas la dernière fois, Normand Bray. Je sais que vous étiez en vacances, puis là, vous avez pris un petit temps pour nous. Merci de l'avoir consacré à nous, soit dit en passant. C'est très sympathique de votre part.
Ben, c'est un plaisir de discuter avec vous, puis j'espère que les gens vont trouver du plaisir à lire ça, parce que je l'ai écrit pour mes enfants et pour tous les gens qui sont curieux et qui se posent ces questions-là, qui souvent pensent que c'est des questions idiotes ou n'osent pas les poser. Alors, j'espère qu'il y aurait des réponses, mais surtout, j'espère que ça va susciter d'autres questions puis le goût d'en savoir davantage.
Vous êtes très inspirant. Un gros merci.
Au plaisir. Merci à vous.
Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Nous, on se rejase demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye bye. Marceau le